réponse à ta demande, je te parlerai de la conscience. Nous touchons ici une notion délicate, complexe, surprenante. Dans un premier temps, sache qu'aucun monde ne peut exister sans la présence de cette faculté. Cette connaissance, précédée par l'instinct, est issue de la partie de ton esprit qui est dualité. Elle participe au processus d'évolution à différents niveaux avant d'atteindre la part non divisée de ton esprit divin, logée en mon monde. Dans l'historique de ton monde, les hommes enfermés sans le savoir, dans une profonde ignorance, à ne pas juger, ont raconté que celui qu'ils ont dénommé Dieu avait créé ton monde en 7 jours, avec au sommet de cette dualité évidente, un homme et une femme à qui il interdit l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toujours la dualité. Je sais qu'aujourd'hui, bouleversé par la culpabilité, dans le secret de ta pensée, tu doutes de cette théorie. Pour cette raison, précédemment, je t'ai parlé entre les lignes de la non-existence de Dieu, c'est-à-dire de ce Dieu qu'on t'a enseigné. De toute évidence, une fois le passage traversé, aucune dénomination ne sera nécessaire. Alors que tu amorces à peine la compréhension que ton monde est géré par le Dieu égo, celui qui est à l'origine de la division, de la souffrance, de la guerre, de la haine, etc., il te devient impérieux d'élucider cette question fondamentale. Il m'est impossible de te parler de la conscience sans te parler préalablement de l'esprit divin. Là aussi, tu risques le choc. Divisons, pour une meilleure compréhension, l'esprit en 2 parties. L'esprit, avec un E minuscule, correspond à ton lien à l'ego dans le monde de la conscience. L'esprit avec un E majuscule désigne ton lien à celui que nous continuerons d'appeler Dieu, mais uniquement parce que dans ton monde, les mots sont nécessaires. Pour que tu t'y retrouves plus facilement, je le nommerai l'esprit divin. J'y reviendrai. Comprends bien le principe de ton monde comme étant un monde dans le rêve, c'est-à-dire dans l'ignorance du réel, mais en marche vers le réel. Ce réel dont je te parle comme étant, en toi, le Christ en gestation. Ton monde est un lieu d'apprentissage, enfermé dans le temps et l'espace, issu d'un concept de dualité et soumis à l'emprise de l'ego. Comprends bien que cet ego n'est pas une entité séparée de ta réalité qui te guette comme un gros méchant et qui cherche à t'attraper. Il est partie prenante de cette part de toi, gérée par une conscience soumise à l'ignorance, en même temps qu'en voie d'expansion, en vue du passage vers d'autres dimensions encore insaisissables par ton petit esprit. De cet ensemble de carences évolutives, tu demeures dans l'ignorance d'où origine la source de toute souffrance. Cette conscience étroite te garde dans des croyances et des soumissions indignes de ton esprit divin, et c'est pourquoi il importe que tu entres dans ce que nous avons appelé précédemment l'esprit de rectitude. Nous y reviendrons. Le manque d'expansion de la conscience primitive a enfermé ton monde dans une croyance de paradis terrestre. D'abord, soumis à la culpabilité, donc à la punition, et ensuite à la peur, suivie par l'attaque et l'inévitable douleur où tu dois t'enfanter. Pour expliquer cette méprise suggérée par l'ego, un dieu punisseur qui veut te priver de la connaissance faisait bien l'affaire. Et voilà que ce type de dieu règne encore dans bien des esprits, comme une assise sécuritaire dont il est difficile à se défaire en raison du poids de l'autorité qui te l'a enseigné. Tout au long de cette traversée désertique, reliée au premier étage de la tour imagée dont nous t'avons déjà proposé la métaphore, vois la pauvreté de cette conscience. Sourde, aveugle, ignorante, elle est enracinée dans le châtiment et la désolation. Si nous t'avons proposé d'y redescendre, c'est pour en défaire les fondements architecturaux. Défaire n'implique ni jugement ni critique sur l'ignorance du passé. Il suppose uniquement d'accéder à un degré de conscience plus évolué pour parvenir, peu à peu, à ce présent sans précédent et sans suite, ainsi que tu le comprendras plus tard. Cela te permet de créer le passage et de t'aventurer ailleurs, hors de ces croyances périmées. Cela ne veut pas dire que ta course prend fin pour autant. Attends bien. L'accès à la délivrance se situe hors du rêve, c'est-à-dire plus loin que ce que tu nommes la conscience et le temps, la vie versus la mort. Je te le redis, la conscience appartient au monde de la dualité. Elle te garde dans une obligation de préférence, dans l'attachement à tes valeurs, à tes proches, à des options politiques ou religieuses, à des objets sans importance, à des rôles sociaux, à des espoirs sans forme et sans couleur. à la structure mortelle du corps, au papier presque toujours souillé de l'argent qui engendre des guerres et parfois procure de petits bonheurs minuscules. Quand ce monde, tu le regarderas avec suffisamment de sérieux, tu pourras t'en détacher. Tu continueras d'y évoluer au quotidien, sans pour autant y perdre ta joie, ta paix et ta sérénité, accompagnée d'une capacité intuitive inouïe. L'ego, de moins en moins confortable, gardera la chambre et deviendra aveugle peu à peu. Par opposition, tu sentiras que les écailles commenceront à tomber progressivement de tes yeux. C'est que l'esprit divin, ce lien indéfectible entre toi et l'intelligence originelle, te conviera sur les rives d'une connaissance qui va bien au-delà de la conscience. Il t'accompagne progressivement vers la supraconscience, hors de toute dualité, délivrée du temps. Christ, au premier degré, dans une avancée sans fin, au sein de l'amour créateur en éternelle expansion.
Un jour, une femme devait, tôt chaque matin, se rendre au travail. On lui avait attribué une tâche éreintante et peu rémunérée. Elle supportait les risées et les affronts, tête penchée et dos courbé. Pendant la demi-heure qui lui était allouée pour dîner, elle se rendait dans un petit parc tout près pour avaler son maigre repas. Personne ne lui adressait la parole jusqu'au jour où un jeune enfant vint l'y rejoindre. Pourquoi travailles-tu 15 heures par jour? Et toi, pourquoi viens-tu jouer du flûtio tous les midis? Répondit-elle d'un ton suspicieux. Parce que je t'aime, pour répondre à ton appel et pour te donner un peu de joie. Je travaille 15 heures par jour pour payer l'énorme dette laissée par mon conjoint décédé, pour défrayer le coût de mon logement, de ma nourriture, de mes vêtements. Comme je suis handicapé, je dois accepter le travail qui m'est offert. Alors, pourquoi ne regardes-tu pas dans la petite boîte qui est sur ton bureau? « Quelle petite boîte ? » dit-elle impatiente, croyant que l'enfant se moquait d'elle. « Tu regarderas ce soir. Elle est là depuis que je te rends visite. » « C'est un canular, » cria-t-elle, s'éloignant en direction de son travail, ayant la certitude qu'elle ne méritait rien. Les jours passèrent. L'enfant revenait fidèlement. Flûtio au bec, il déversait sa mélodie comme un baume sur une plaie vive. Pourtant, la femme paraissait s'enliser toujours plus profond en sa misère. Sans se lasser, l'enfant reprenait toujours la même question. « Pourquoi travailles-tu 15 heures par jour? Laisse-moi la paix, je n'ai pas de temps pour tes insignifiances, » cria-t-elle impatiente. Le lendemain, quand elle revint au parc, l'enfant n'y était plus. Elle regretta son comportement et entra chez elle exténuée et maussade. Cette nuit-là, elle ne trouva pas sommeil tant elle se sentait abandonnée et coupable. Elle pleura un long moment. Tout à coup, elle se souvint de la petite boîte. Elle se leva prestement, chercha quelque peu pour la découvrir là, sur le bureau. Ce coffret minuscule contenait deux clés dorées identiques. À quoi pourrait-elle bien servir? Se demanda-t-elle un peu troublée. Elle retourna au sommeil, serrant les clés sur son cœur, souhaitant un jour pouvoir revoir l'enfant. 7 jours plus tard, l'enfant se manifesta. Tout joyeux, il lui tendit un beau flûtio tout neuf qu'elle accepta timidement. « Tu as voulu me punir ? » demanda-t-elle, mine renfrognée. « Oh non, je suis venu voir si tu avais lu les instructions sous la boîte où se trouvaient les clés de la libération. »« Non, je n'ai pas remarqué, » répondit-elle penaude. Intriguée, elle réfléchit. Puis, elle fila droit chez elle et se rapporta malade au travail cet après-midi-là. Sous la boîte se trouvait la consigne suivante. Rendez-vous à l'institution financière dont vous trouvez l'adresse ci-jointe et réclamez l'ouverture du coffret de sécurité numéro 1. Mi doute, mi espoir, elle se précipita vers le lieu indiqué. Dans le coffret, elle trouva une enveloppe contenant un chèque de $200 000. Tremblante, elle se rendit au bureau du directeur. « Tiens, dit-il, vous voilà enfin. Je vous attendais depuis un bon moment. »«
Comment? Vous étiez au courant? » s'enquit-elle.
« Certes, répondit-il. L'enfant au Flutio m'avise de toutes les formes de transactions qu'il opère ici. »
Et la légende d'ajouter qu'il est toujours sage de chercher le trésor là où il se trouve.
Pourtant, cher ami, si tu es trop occupé à couver ta souffrance, à la cultiver, à la considérer comme l'autorité en ta maison, et que dans ta naïveté, tu te résignes à lui payer des dettes non dues, entassées au cimetière de l'inconscient, ne te surprends pas de croupir en ta colère et en cette peur masquée qui te dévore par le dedans. Je te le redis à nouveau, descends avec moi jusqu'aux racines du mal, pour que nous puissions ensemble défaire le mensonge à son origine. Ton trésor se trouve exactement au lieu inversé de ta misère, mais pour y avoir accès, l'illusion doit s'éteindre. La paix définitive précède l'origine du mensonge. Tu y reposes encore en l'essence parfaite de l'amour créateur. La mémoire t'y reconduira à ta sortie du rêve. Allons ensemble dynamiter toutes ces divergences qui te maintiennent dans cette maladive division qui te rend oublieuse du soi. Oses-tu encore croire que la souffrance te soit nécessaire? Réponds. Comme tu en mets du temps à reconnaître les émissaires que j'ai placés sur ta route. Tu te crois séparé alors que c'est la main qui caresse le pied et l'esprit divin qui s'adresse au cerveau. Un seul corps, comprends-le, je t'en supplie. Comprends que tu possèdes un trésor sans prix, dont tu es à la fois l'indicateur ou flutio, le coffret de sécurité et la gérante des ressources. Venu est le temps où il importe que tu te saches à l'origine et de ton mal et de ta paix. Aime, je te le chante sur tous les tons, aime. Et la seconde clé, le temps venu, en silence, propose-la à ton frère. Chaque fois que tu en offriras une, deux te seront remises et par la suite un nombre incalculable d'autres. Ainsi, la vague de l'unité accentuera son mouvement vers la source que vous épouserez à nouveau dans l'unité d'une paix définitive. Vous danserez une seule danse, au son d'un seul flutio, en ce lieu splendide qui sera laissé vide par la disparition de l'univers. Il vous attend distrait sous les feux de la rampe proposée par l'ego collectif. Ensemble, vous serez aspirés dans une paix et une joie sans limite, libérés du faux rêve inventé par ce monstre inexistant.
Un jour, un homme décida de s'acheter une modeste maison dans un village éloigné de tout. Peu de temps après son arrivée, il apprit que, pour devenir autonome comme population, les gens avaient décidé que chaque jour, sous un auvent géant, il tiendrait un marché où chacun pourrait offrir aux autres le fruit de son effort. Paysans, cuisiniers, boulangers, couturières et tant d'autres étaient fidèles au rendez-vous. Notre nouveau venu prit quelques jours pour se questionner sur ce qu'il avait de meilleur à partager. Voilà qu'à la surprise de chacun, il se présenta chaque matin, vêtu de façon originale, avec des attitudes impossibles à comprendre. Le premier matin, vêtu comme un clown, il accomplit des courbettes avec des gestes étonnants. Le second jour, devant chaque échoppe, il fit son signe de croix. Le jour suivant, il s'inclinait front au sol, répétant « Allah, je te supplie, Allah, rends-moi meilleur !» Il vint plus tard avec une calotte symbolisant la religion juive. Jusque-là, les gens ne disaient pas trop grand-chose, quoique certains citoyens avaient la certitude que le village venait d'hériter d'un malade psychiatrique. Les autorités se rassemblèrent pour décider quelle option serait la meilleure au cas où l'attitude de cet homme en viendrait à créer une dispute interne chez les citoyens.
ils décidèrent de donner encore une semaine aux nouveaux venus avant de prendre quelque action que ce fût. Chaque matin, l'étranger se manifestait sous des formes différentes. Tous y passèrent. Policiers, chauffeurs de taxi, cordonniers, mères de famille, bûcherons, etc. L'atmosphère changea lorsque l'homme se présenta un jour vêtu comme une prostituée et le lendemain comme un évêque. Le tollé fut si virulent que l'autorité décida qu'il y aurait procès sur le champ. Devant la population sidérée, on fit monter l'homme sur un baril renversé, pieds et poings liés. D'un ton ferme, le président du village prit la parole. « Voilà à peine 10 jours que vous êtes des nôtres, monsieur. Vous devenez un objet de questionnement en notre paisible village. Au nom de toute la population, je vous demande de nous donner immédiatement des explications sur votre attitude ou nous nous verrons dans l'obligation de vous chasser sur le champ. » L'homme se concentra, prit une profonde respiration avant de se donner la parole. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois en tant que président du village, je consens à répondre le plus clairement possible à votre question. Étant donné que je possède peu de richesses, que je suis plutôt maladroit, que je ne sais ni cuire le pain, ni cuisiner, ni cultiver, et que la seule chose que je connaisse soit le théâtre, je me suis convaincu qu'à ma manière et avec les instruments qui sont miens, j'exprimerai l'amour profond que je porte à chacun d'entre vous. J'ai alors voulu vous démontrer que je suis catholique avec le catholique, musulman ou juif avec ceux qui ont choisi ces croyances, policier, chauffeur de taxi, boulanger et tous les autres métiers avec ceux qui les pratiquent. C'est ma façon à moi de vous dire que je cherche l'unité avec vous tous. De plus, ajouta-t-il à voix basse, demain, mais je m'en abstiendrai, je voulais me déguiser en président. La foule éclata d'un rire joyeux et se mit à applaudir. Et le président d'ajouter, « Si l'amour est votre intention, monsieur, vous êtes le bienvenu en notre village. Nous vous consacrerons comme étant notre clown public. Mais, ajouta le doyen avec humour, nous nous chargerons de vous instruire et de vous trouver un métier supplémentaire. » Et la légende dit que le clown enseigna, par le rire et de façon détachée, que rien n'a de sens en dehors de l'amour.
L'amour dont je te parle n'a rien à voir avec ces formes de relations où chacun, et à quel prix, s'abreuve au meilleur de l'autre tout en tenant le poing fermé sur sa propre richesse. L'amour véritable est libre comme le vent. Il donne, sans attendre de retour, et sans pour autant déposer sa semence sur la pierre ou sur le sable. À celui qui est ouvert, il donne selon cette ouverture. À celui qui est parcimonieux, il attend patiemment le moment favorable. L'amour dont je te parle est si rare en ton monde qu'il est le plus souvent imperceptible, même à celui qui le reçoit. Aime, t'ai-je dit tant de fois. Aime, et tout te sera donné. Ne confonds pas aimer avec rendre service, faire un compliment ou donner ton argent aux pauvres, quoique tous ces gestes puissent être teintés d'amour véritable. Aimer, c'est avant tout reconnaître en ton frère le germe du Christ qui cherche à se révéler au-delà de toutes apparences, au-delà de l'espace et du temps. Seule cette forme d'amour peut t'arracher aux ténèbres, te rendre libre et te révéler tout ce que tu ignores de ta propre richesse.